Bonjour à tous, bienvenue. En fait, ici, c'est pas tout à fait un épisode complet. On réutilise des enregistrements pour combler des trous dans l'antépisode. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les meilleures des positions parce qu'on a Christophe Bruneau avec nous qui va pouvoir venir alimenter les recherches. Christophe est un chercheur indépendant qui est maintenant conférencier suite à une distance prise avec l'institution. Distance que je comprends parfaitement bien.
Ça sonne dramatique, comme tu le dis.
Ah, moi, j'aime bien. Non, oui, distance qui n'est pas rupture, ce qui n'est pas comme un déni, claquage de porte. Bon, tu proposes des conférences sur la culture populaire, sur les objets de la culture populaire. Et bon, dans un concours de circonstances, tu t'es retrouvé au Québec durant cette semaine. On est vraiment content de pouvoir t'accueillir sur le bon. Bienvenue à cet épisode de Pop en Stock Annexe. Bonjour, Megan.
Bonjour.
Donc, Christophe, comment ça va?
Bien, Jean-Michel, merci. Et merci d'avoir manifesté autant de joie du fait de ma venue au Québec. Alors, je précise que c'était donc quand même pour une conférence du laboratoire Figura à l'UQAM.
Mm-hmm. Bon, oui. Mais, en fait, mon enthousiasme provient peut-être la dernière demi-heure lorsqu'on a discuté puis que je réalise que tu as énormément de trucs à amener puis tu as beaucoup de trucs à dire. Concernant le mythe, concernant les objets de la culture populaire, concernant plein de trucs, c'est très, très, très intéressant. Tu t'intéresses d'abord et avant tout à Superman, James Bond, Alien.
Oui. À Blanche-Neige aussi.
Blanche-Neige, wow!
Oui, parce que Blanche-Neige a beaucoup, beaucoup été adaptée au XXe siècle, au cinéma, dans la bande dessinée, sur tout un tas de supports, en fait. Et donc, ça m'intéresse aussi, tout ce qui est réadapté en continu, comme ça. C'est un peu, c'est quelque chose qui me passionne dans mes recherches.
Wow! Et comment ça se passe? Qu'est-ce que le circuit de chercheurs indépendants, tu te promènes de ville en ville à proposer des conférences pour des gens?
En fait, je vais plutôt passer par des associations d'amis, de contacts, de réseaux, et inscrire mes conférences sur des festivals, sur l'imaginaire,
okay.
Voilà, pour essayer de toucher le plus grand public possible, et notamment les fans, puisque j'aime bien discuter de ça avec les fans. C'est pas à l'université qu'on va discuter de culture pop, de culture geek et d'imaginaire en général. Donc voilà, ça permet de concilier deux mondes qui se rencontrent pas forcément, même s'ils ont toujours envie de se rencontrer.
Ouais, absolument, parce qu'il y en a un qui est extrêmement craintif des objets, mais les autres sont extrêmement soifés de connaissances. Je sais pas, est-ce que tu fais les conventions de bande dessinée, les comics,
Alors non, bande dessinée non, c'est plutôt des conventions qui ont vraiment trait à la fiction, en fait. Ça se fait de plus en plus en France, des festivals de l'imaginaire.
Ouais.
France, ça se développe énormément, oui.
Un peu comme les Pop Expo ici qu'on a.
Ok, ça serait plus ça.
Ouais, ça semble plus à ça qu'un Comic Con, par exemple.
Ok.
Ouais.
OK, parce que nous autres ici, le Comic-Con, c'est vraiment une belle recette de succès. Là, à chaque fois qu'on fait des présentations, nous, ils sont toujours très, très accueillants, très enthousiasmés et tout. Là.
Ah ben, si...
Tu reviendras.
Ah ben oui, volontiers, si c'est pour aller au Comic-Con.
Oui, c'est une très, très belle expérience. Donc, tu me parlais rapidement de comment ce que tu lises. Qu'est-ce qui t'amuse le plus, c'est d'aller chercher une icône ou un objet de la culture populaire puis soutirer l'essence mythologique qui existe.
Moi, à la base, ce que j'ai... c'était le but, c'était pour moi, c'était d'expliquer un peu le succès d'une icône populaire.
Okay.
Alors que souvent, si par exemple tu lis un scénario de Superman, un comics de Superman, tu risques d'être un petit peu déçu par la qualité du scénario et des dessins. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ces icônes étaient devenues populaires. On pense à l'hypermédiatisation dont elles font l'objet. Alors qu'en fait, cette hypermédiatisation, elle vient souvent après le succès. Hein. On n'a jamais eu autant d'hypermédiatisation pour Star Wars qu'après qu'on ait réédité la trilogie, etc.
Ouais, c'est vrai ça.
Et donc du coup, moi, c'était la première question que je me posais, c'était de savoir qu'est-ce qui faisait que c'était si populaire. C'est pas forcément un critère esthétique, hein, puisque voilà, on vient de le dire, niveau qualité, souvent on a des scénarios médiocres. On a des réadaptations plus médiocres encore, et pourtant, le succès continue, et l'icône continue à s'imprégner comme ça dans la conscience collective. Et donc, c'est là que je suis tombé sur la notion de mythe. Alors, au début, j'ai étudié un peu Joseph Campbell, tout ce qu'on a étudié, c'est l'adaptation par Christopher Vogler, qui travaillait chez Walt Disney, qui a lu Joseph Campbell, qui a compris que George Lucas s'était servi de Joseph Campbell, du monomythe. Mm-hmm. Alors, ça a fait tout un boom dans l'industrie du divertissement. Et puis, très vite, j'ai vu que c'était uniquement ça, en fait. C'était uniquement un argument qu'utilisait l'industrie du divertissement pour cautionner des productions qui, souvent, sont médiocres. Les blockbusters, tout ça, on est souvent très, très, très déçus. Et je n'ai pas quitté la notion de mythe pour autant. Et alors, avec des outils de recherche en sciences humaines, je ne sais pas si on va parler de structuralisme à pop en stock.
On peut.
On l'aborde souvent, mais sans dire le mot.
C'est le mot qui fait peur.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est tous les ismes, ça fait un petit peu peur. Aussi.
En France, c'est presque devenu un gros mot.
Non, mais ça commence à dater un peu aussi le structuralisme.
Oui. Bon, alors, on va dire que je vais analyser une œuvre et je vais essayer de trouver ce qui est particulier à cette œuvre. Mm-hmm. Alors, l'exemple canonique, c'est Superman, parce qu'on a un super discours de Bill dans Kill Bill volume 2. On a un discours écrit par Quentin Tarantino qui fait une analyse structurale de Superman.
C'est vrai.
Et je peux te la refaire si tu veux.
Je t'en prie.
Ça dure 1 minute 30, c'est bon?
Je t'écoute.
Allez. Okay. Attention, alors c'est Bill qui parle, hein, c'est pas moi. Tu sais sans doute, enfin vous avez sûrement compris, que la bande dessinée est une de mes passions. Notamment les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie du super-héros est tout à fait passionnante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas génial comme BD, pas terrible au niveau du dessin, mais la mythologie est tout à fait passionnante. Elle est brillante. Alors là, normalement, tu as Béatrice Kiddo qui se plaint parce qu'elle a une flèche dans le genou, mais je vais pas refaire.
Je vais le faire. Voilà.
Ouais, très réaliste.
Moins plaignard que ça, en fait, Kiddo est fait de fer.
Elle est plus tough, là.
Bon, alors, un truc de base dans la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter-ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des deux autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand il se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Le costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle les Kent l'ont trouvé, bébé. C'est ça, sa tenue d'origine. Quand Clark met le costard et les lunettes, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que met Superman pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Voilà, ainsi parlait Bill.
Fantastique.
Un grand moment de cinéma. Alors, je suis parti de là en fait pour mes travaux. En fait, c'est ça qui m'a complètement débloqué. J'ai trouvé ce discours vrai. Je me suis dit, c'est juste.
Mm-hmm.
Et à part la fin, peut-être, qui est un peu interprétée, puisqu'on va devoir retrouver le scénario de Kill Bill, tout ça. Mais tout le long, j'ai trouvé la démonstration très, très saisissante. Et 5 ans plus tard, après mes études, j'allais me rendre compte qu'en fait, Bill venait de faire une démonstration structurale. Et donc, au début, il va éliminer le scénario, le dessin, hein, pas génial comme BD, pas terrible au niveau du dessin. Donc, il va éliminer ce que Claude Lévi-Strauss appelle la poiesis, tout ce qui ressort du processus de production d'une œuvre. Et donc, il va garder la mythologie, le mythos, chez Claude Lévi-Strauss, encore une fois. Et donc, Bill va reprendre une distinction structurale par Claude Lévi-Strauss en plein milieu d'un film de Tarantino. C'est déjà assez... Il faut le signaler, quand même, c'est important.
Absolument, absolument.
Et donc, il va partir de là, il va ouvrir un paradigme, ce qu'on appelle un paradigme en structuralisme, à savoir le paradigme du super-héros et de l'alter-ego. Du moins, il va définir ce paradigme par ce trait-là, l'alter-ego. Et il va différencier, comme on le fait dans une description structurale, il va différencier Superman de tous les autres super-héros.
Mmh.
Alors, on peut être un peu critique, hein, parce qu'il n'y a pas que Superman qui a un autre alter-ego, enfin un alter-ego humain.
Ouais, bon, oui. Et même que Batman a fait le même truc. Il y a eu une sortie qui s'est faite il y a quelques années où Batman a littéralement dit que son visage était celui avec le masque.
Déjà, oui, il y a une tension chez les autres. Mais
ce n'est pas de la même manière. Il n'est pas en train de le dire à la même manière que qu'est-ce que Bill est en train de dire. Il est juste en train de dire que Bruce Wayne n'existe plus.
Ouais.
Qu'il est complètement... Que Batman a enfin parfaitement intégré Bruce Wayne dans son processus de quête à la justice et de la décriminalisation du monde. Mais ça fonctionne parfaitement bien, ça aussi. Là.
Ouais, ouais, bah déjà, il y a ce phénomène de l'alter ego qui va se faire complètement absorber par l'identité du super-héros. Ça, je pense que c'est très positif, mais je n'ai pas encore travaillé sur Batman, mais je compte
ça
le faire.
Ça va être très Venom aussi comme processus de se faire envelopper justement par l'image du super-héros. Donc, l'alter ego va jusqu'à disparaître pour devenir entièrement super-héroïque. Là, donc,
ouais, dans la mythologie de Spider-Man, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, effectivement. Et sinon, bon... Pour Superman, ça s'explique plus simplement, c'est un extraterrestre. Alors du coup, tous les super-héros extraterrestres vont être dans le même cas que Superman. Hein. Ils vont devoir se créer un alter ego.
Oui.
On a Thor chez Marvel, on a le Limier Martien chez DC Comics.
Exactement. Ouais.
Mais on peut encore différencier Superman de ces gens-là. Et donc j'ai continué comme ça, exactement comme Bill a commencé. J'ai continué mes recherches comme ça, en différenciant Superman au fur et à mesure.
Oh.
Jusqu'à tomber sur ce qui vraiment, vraiment faisait la particularité de Superman.
Et cette particularité, c'était
Du coup, c'est le seul qui ne va absolument pas utiliser ses pouvoirs pour devenir Clark Kent, alors que le Limier Martien est métamorphe, alors que Thor, il a oublié qu'il avait une identité d'extraterrestre. C'est en retrouvant son marteau qu'il va retrouver son identité. Et Superman, lui, va se lever tous les matins, comme on le fait nous-mêmes. Il va redresser sa mèche rebelle, c'est important. Si on parle de James Bond après, la mèche rebelle, c'est super important. J'insiste. Et donc il va redresser sa mèche rebelle, mais en mettant du gel, il va pas utiliser ses super pouvoirs pour ça. Il va enfiler un costard, il va mettre des lunettes, et puis il va sortir de chez lui, il va prendre le bus, il va aller au boulot. Alors que voilà, donc il va vraiment faire l'humain. C'est pour ça que Bill dit quand Clark met le costard, et pas quand Superman met le costard. Donc Superman se déguise pas vraiment, il fait l'humain, il va chuter au rang d'humain. Ouais. Et donc voilà, quand je suis arrivé là, là le mythe était clair en fait. Là je voyais qu'il y avait un vrai mythe derrière ça, puisque... C'est un comportement... tout spectateur devrait se dire, mais pourquoi il fait ça?
Ouais. Puis c'est surtout ça. C'était ça l'approche que je trouvais qui était intéressante dans la conversation qu'on avait avant. C'est qu'il y a des trucs que tu soulignes, il y a des questions que l'on pose et il y a des questions qu'on ne pose pas.
Alors que souvent, c'est les plus évidentes qu'on devrait poser. Par exemple, Mégane, je te pose la question. Allez. Pourquoi, à ton avis, pourquoi Superman essaye de séduire Lois Lane en tant que Clark Kent? Alors qu'il sort déjà avec elle en tant que Superman, il s'envoie dans les airs tous les deux constamment depuis le début de la série, depuis 85 ans déjà. Alors pourquoi il insiste à essayer de la draguer comme ça en tant que Clark Kent, si t'as une idée?
Je pourrais pas répondre. Je pourrais essayer de dire parce qu'elle est humaine. C'est ça, elle essaie de la séduire sur un même pied. Dans le fond, il veut pas la séduire en tant que super personne, mais en tant qu'humain. Donc il y aurait quand même, dans le fond, là-dedans, une partie de son alter ego qui veut devenir humain, qui veut s'intégrer dans le milieu qui l'a accueilli.
Ouais.
Mais en même temps, pourquoi... Mais pourquoi qu'il a séduit avec les pires aspects de l'humain? Pourquoi est-ce qu'il veut assurément... Pourquoi qu'il n'est pas en train de changer Clark Kent
pour
l'ajuster? Rendre, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire.
Disons que si on répond comme ça, c'est une bonne réponse. Hein. C'est une très bonne réponse.
Ouais,
mais du coup, on va retomber sur la question pourquoi Clark Kent, en fait. Hein. On va toujours aussi là-dedans.
On renvoie toujours à la question.
Et finalement, il n'y a pas de logique qui vient expliquer ça. Et en même temps, ce n'est pas une question qui a souvent été posée. Hein. Alors, il y a des scénaristes qui ont répondu, mais on n'a pas retenu leur solution parce que c'était pas terrible. Et en fait, donc, en continuant toujours sur différenciant ces histoires, on voit que Superman, à chaque fois qu'il va se déguiser en Clark Kent, à chaque fois qu'il va se changer en Clark Kent, il va faire exactement ce qu'a fait... il va rejouer le mythe de la chute de l'homme, après que l'homme est croqué dans la... Enfin, après que la femme est croquée dans la pomme, c'est vrai qu'il y a un ordre dans cette histoire. Après que l'homme, et que Dieu les ait punis. Du coup, l'homme va chuter. Alors avant, il était à l'image de Dieu, puis en plus, il a croqué la pomme, donc il a atteint la connaissance du bien et du mal, d'ailleurs, ce qui est un trait psychologique de Superman. Il sait différencier le bien et le mal, ça veut dire que ses ancêtres ont aussi croqué la pomme. Mais sauf qu'à la différence du premier homme, Superman, quand il va chuter sur Terre pour travailler, puisque c'est la punition que l'homme va avoir après avoir chuté, donc quand il va devoir chuter sur Terre pour travailler, pour devenir humain à notre image et plus du tout à l'image de Dieu, lui, il n'a pas commis de péché originel. Voilà. Donc c'est vraiment la différence, la seule différence qu'on va avoir avec le mythe de la chute, mais sinon, on a la même histoire, en fait.
Et aussi, on rejoue toujours ce mythe-là à travers l'histoire de Superman, parce que plus ça avance, plus on essaie de lui trouver des faiblesses en tant que Superman. Là, on dit, mais son pouvoir vient du soleil, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de pouvoir. Puis on essaie toujours de le remettre dans ces situations problématiques-là. Fait qu'on rejoue à perpétuité cette chute-là, mais de façon différente. Puis je pense que c'est aussi le propre du mythe d'avoir à chaque fois une interprétation différente. Donc, on raconte la même histoire, mais on l'interprète d'une manière différente. Je ne sais pas si ça fait un peu sens, là, mais...
Oui, puis en fait, oui, je trouvais ça très intéressant. En fait, je trouve ton analyse très intéressante aussi du fait que, si je me rappelle bien de ma Bible, c'est un peu chambranlant, la connaissance venait aussi avec la honte d'être nu.
Oui.
Et Superman se promène en sous-vêtements. C'est... Non, mais c'est vrai, il se promène avec ses sous-vêtements à l'extérieur de son corps. Et quand,
ouais, pas ça, il y en a vraiment corps. Des sous-vêtements, on les voit. Là,
c'est ça, ses sous-vêtements sont à l'extérieur de son linge et quand il se travestit pour devenir un mortel, il remet du linge de plus.
Oui, aussi, vrai, à chaque fois qu'il enlève son...
C'est ça, il déchire ses vêtements, donc il se remet... Vêtements,
mais il n'est jamais vraiment nu, c'est son costume.
Ouais, il n'est jamais vraiment nu à cause des règles chromatiques de l'époque, mais...
Non, mais on pourrait l'interpréter comme ça aussi. Non, on enlève nos vêtements, d'habitude on est nu en dessous, mais lui, il y a un autre...
Ouais.
Il y a un autre set de vêtements.
Il est né avec, quand même. Il est né avec, avec cette couverture autour de lui.
Ben comme la poupée Ken. La poupée Ken, même dans son état la plus nue, a quand même des sous-vêtements. Tu peux pas lui enlever ses sous-vêtements, un peu comme Superman. Tu peux pas lui enlever ses sous-vêtements.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me fait penser à une citation de RuPaul. Citation drag queen, donc. C'est « You're born naked ». Alors, excusez mon anglais. «
We're all born naked, and the rest is drag ».
C'est très bien. C'est...
Bon, ben, Superman est né avec un costume parce que c'est quand même un personnage de fiction, il faut le rappeler.
Bon, oui, c'est ça. Et on ne pense pas qu'il y aurait eu un si grand succès si Superman avait été flambant nu.
Peut-être pas en 1939.
Exactement, c'est ça.
Tiens, ça me fait penser à un deuxième truc, et on en parlait tout à l'heure. Le fait de se rendre compte qu'il est nu, effectivement, le nom de Kal-El, on en parlait, donc Kal-El, on a beaucoup de traductions sur Wikipédia, on en trouve tout un tas. Mais en fait, si on cherche le nom Kal-El dans la Torah, dans le Pentateuque, on va le trouver au verset 3.10, au moment où Adam apprend qu'il est nu. Et donc le verset, c'est « Et j'ai entendu ta voix, Seigneur, et j'ai eu peur, car j'ai su que j'étais nu ». Et en fait, le mot Kal-El, en hébreu, dans cette phrase, désigne la voix de Dieu.
Ouais.
Wow.
Et c'est la première fois que Kal-El est employé dans le Pentateuque. Alors, ce n'est pas Kal-El exactement, puisque ce n'est pas le mot El qui est utilisé dans le Pentateuque, mais c'est bien le mot Kal, et c'est bien un suffixe qui va désigner Dieu, en l'occurrence. On vient d'avoir la traduction.
Et ça, c'en est des... en fait, quand tu as fait ta recherche...
Ouais.
De Kill Bill à Superman, est-ce que de Superman à James Bond, est-ce que c'est comme ça que ça s'est opéré, de façon très linéaire, ou c'était, voyons voir l'encyclopédie des icônes pop que j'ai devant moi, voyons voir lesquelles que je suis capable de faire le plus long bout de chemin.
C'était ça, c'était encyclopédique. Ouais. J'ai repris la même méthode, mais il a d'abord fallu que je lise tous les James Bond, il a fallu que je regarde tout pour être sûr de rien oublier sur la mythologie de James Bond. Et après, j'ai repris la même méthode. Qu'est-ce qu'il y a chez James Bond qu'il y a chez aucun autre espion, en l'occurrence?
Ouais, bonne question.
Bonne question, c'est vrai. Et est-ce que vous connaissez déjà la véritable identité de 007?
J'ai l'impression qu'il est piégé, cette question. Je ne sais pas.
Il y avait des théories disant que 007... Ben en fait, James Bond, c'est un nom de code, un grade que tu pouvais atteindre à un moment donné quand tu étais espion. Là, c'est
celui qui a le permis de tuer.
Oui, c'est ça.
C'est celui qui est au service de sa majesté. C'est tous les noms...
Ça
les
met
plus...
un peu comme colonel général. Oui, exactement. Donc, tu es un James Bond, donc un agent 007.
Et
peut-être que l'agent 008 aurait un autre nom qu'on ne connaît pas.
Oui, parce qu'il est dans Skyfall, l'agent 008, justement.
Oui,
il est 006 dans GoldenEye, je crois.
GoldenEye,
ouais,
celui qui a joué Janus, Bifron, le duo de visage.
Donc, il pourrait y avoir, de cette théorie-là, il pourrait y avoir un cimetière de James Bond.
Ben non.
Ah! Non, sérieux?
Mais sérieusement, à la fin du film Skyfall, en fait, on a la tombe des parents de James Bond. Je ne me rappelle plus du prénom de son père, mais sa mère s'appelle Martine Delacroix Bond. Et son père s'appelle Bond aussi.
C'est
du coup le nom du père.
Okay. Parce que ça aurait pu être la tombe des parents du James Bond de Daniel Craig. Et la tombe des parents du James Bond de George Lazenby est ailleurs, en Écosse probablement.
Alors ben non plus, puisqu'en fait à la fin du dernier roman d'Ian Fleming, L'homme au pistolet d'or, on apprend aussi le nom des parents de James Bond et ce sont les Bracca.
Donc ou c'est juste un donc plein de jumeaux, donc ils ont tous les mêmes parents. ils ont vraiment peu d'originalité dans leur nom, ils ont tous prénommé James.
C'est possible. J'ai pas l'arbre généalogique de la famille en fait pour pouvoir le dire, mais comme il est orphelin, j'aurais tendance à dire.
James Bond est orphelin.
James Bond est orphelin. Oui, ses parents sont morts quand il est né.
Un autre orphelin.
James Bond est orphelin. C'est comme ça. Enfin, un fan me disait que justement, puisqu'il est orphelin, il a le droit de porter son vrai prénom en mission. Ah oui, parce que du coup, la véritable identité de 007, c'est Bond, James Bond.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu pareil. Là, quand on parlait des questions qu'on ne posait pas tout à l'heure, on ne s'est jamais demandé pourquoi un agent secret travaillait avec sa véritable identité.
Ouais, c'est vrai ça.
Mm-hmm. Ça, c'est complètement...
Quand c'est le truc le plus dangereux, c'est ce qui fait de toi une proie.
Réalisme zéro, en fait. Hein. C'est juste pas possible.
C'est vrai.
Dans la vraie vie, c'est juste...
C'est pas le seul truc irréaliste de la série, non plus.
Non, ça, c'est clair. C'est vraiment pas le truc, seul truc hyper réaliste de la série. Mais par contre, c'est le premier. Ian Fleming disait qu'il avait écrit l'histoire d'espion qui allait mettre un terme à toutes les histoires d'espions. Mm-hmm. Et du coup, il a créé un espion qui agissait toujours sous sa propre identité. Et c'est pour ça que James Bond, en fait, il a toujours les mêmes goûts. Il boit toujours la même chose.
Ouais.
Il s'habille toujours de la même façon. À 5 minutes de la Bond Street à Londres, où il va se faire tailler ses costards. Donc vraiment, c'est un personnage qui ne peut pas changer d'identité parce que c'est ça son principal trait de caractère, sa principale psychologie, c'est de ne jamais changer d'identité et de s'affirmer toujours, 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 et même sous la torture.
Ouais.
Et c'est ce qui va vraiment faire le caractère de James Bond. Au-delà de sa misogynie, etc., c'est vraiment ce qui va le caractériser.
Il vise à être de plus en plus lui-même au fur et à mesure des répétitions.
Et à s'afficher, surtout.
Ouais.
Alors que la devise du MI6, les services secrets de renseignement britanniques, la devise, c'est « Semper Occultus ». Donc, c'est toujours caché. Et moins caché que James Bond, en fait, tu meurs. Hein, parce que dans le roman, il a une cicatrice de 6 cm sur le visage et une mèche rebelle en plein milieu du front.
Il se cache en plein jour. Il se hiding in plain sight aussi. Ouais. Il affirme son identité. C'est comme une... un revirement aussi de cette...
Peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas, pris comme ça.
On pourrait le voir aussi comme ça.
Oui, parce que c'est une subversion de toutes les figures des espions qui se déguisent,
qui changent, qui
sont tout le temps dans les ombres, ou même qui n'ont pas de visage, comme diabolique, qui n'ont pas de...
C'est vrai que ça en fait quelqu'un de peut-être extrêmement discret. En fait, le fait de s'affirmer comme ça fait que il n'est pas en train de jouer quelqu'un, un personnage, et du coup
il
ressent moins, il a rien à cacher, on n'a pas à chercher. Mais en fait, si James Bond a quelque chose à cacher, malheureusement, il a tué et il a le droit de tuer et il a toujours une arme sur lui. Et ça, par contre, il le cache. C'est la seule chose qu'il va cacher, en fait, c'est tout ce qu'il affilie à son matricule 007. Et dans le roman d'Ian Fleming, le tout premier, Casino Royale, il est écrit que quand il dort, la main sur son flingue cachée sous l'oreiller, sa figure devient glaciale, ironique et brutale. Comme il est en train de cacher quelque chose, quand il dort, il cache son tout petit pistolet. Il cache qu'il a un tout petit pistolet.
C'est correct.
Et donc il le cache. Et à ce moment-là, il est en train de dormir. Et du coup, sa figure devient pas du tout aussi agréable qu'elle l'est en pleine journée. À ce moment-là, sa figure devient vraiment... ironique, glacial, brutal, comme écrit Ian Fleming. Et donc là encore, une fois que j'avais débrouillé un petit peu ça, je me suis dit, il y a forcément un mythe là derrière.
Et c'était le mythe de...
C'est le mythe de Thésée, le mythe d'Astérion, le Minotaure dans le labyrinthe, en fait. Alors ça m'a été aiguillé par Ian Fleming, puisque dans Casino Royale, le chiffre, le méchant, est présenté comme un Minotaure en smoking émergeant d'une prairie. C'est-à-dire un Minotaure qui ne serait pas dans un labyrinthe. Et du coup, on va chercher, c'est quoi le labyrinthe? Alors, s'il est dans une prairie, où est le labyrinthe? Et en fait, le labyrinthe, ce serait donc les services secrets. Et on va avoir, à partir du moment où on connaît un peu le mythe de Thésée, alors je ne sais pas si vous le connaissez, je peux vous le raconter, je ne sais pas combien de temps.
Rapidement, peut-être, pour les gens qui écoutent.
Alors, rapidement, le mythe de Thésée, je ne sais pas si je peux le faire rapidement, mais bon, en gros...
Les grandes lignes.
Les grandes lignes. On a Dédale, c'est l'artisan le plus réputé d'Athènes, et on a en Crète... En sachant qu'Athènes est sous le joug de la Crète, on a Minos, le roi Minos et sa femme Pasiphae, qui détiennent un taureau blanc. Et Pasiphae est très éprise du taureau. Ah. Et donc, elle va demander à Dédale une invention pour pouvoir
faire se faire chevaucher. Une capsule.
Une capsule.
c'est un peu, moi, c'est comme ça que je me le vois, là, mais une contraption artistico-sexuel.
c'est exactement ça. Il va lui faire une vache en bois qui va recouvrir de peau de bête, pasifaé, va se glisser toute nue. Bref, 9 mois plus tard, on sort Astérion, le Minotaure, que Minos va cacher dans le labyrinthe avec Pasifaé, avec sa femme adultère. Et donc, dans ce mythe, déjà, on voit que tout ce qui va être caché va devenir monstrueux, puisque, en fait, le Minotaure, c'est vraiment le symbole de ça, de quelque chose qui s'est fait cacher à la base. Et donc, c'est encore Dédale qu'on va commander pour fabriquer le labyrinthe. Hein. C'est encore cet artisan assez génial qui invente plein de trucs et qu'on va retrouver dans le personnage de Q, dans les films. Oui. Le personnage de Q n'existe pas dans les romans, c'est un ajout des films. Et là, Thésée donc, va se faire missionner par son père, le prince Égée, donc qui serait M dans l'histoire, dans les histoires de James Bond. Et donc Thésée, ce serait James Bond, bien sûr. Donc il va se faire envoyer en sacrifice dans le labyrinthe. Donc il est déjà dans les services secrets, quelque part. Il va rencontrer Ariane, la James Bond girl, qui va lui donner des informations spécifiques pour sa mission, hein, le fil d'or. Ouais. Et il va pouvoir pénétrer jusque dans une jungle enfouie, on ne sait, un désert, une montagne, un volcan, enfin bref, tous ces lieux que l'imaginaire bondien raffole, à savoir des lieux qui cachent les méchants, qui eux ne portent pas leur véritable identité. Ils ont des numéros, etc.
Ouais, ou des noms de code, ou des... ouais, absolument. Ouais. C'est vrai.
Et donc on a le même scénario exactement, et on s'est souvent posé la question, pourquoi quand Thésée ressort du labyrinthe, pourquoi il va aller s'envoyer en mer avec Ariane et la laisser seule sur une île déserte. Et Ariane va se suicider, elle va marcher dans l'eau, comme ça, exactement comme Tracy dans Au service secret de sa majesté, première scène, avec George Lazenby. Tracy qui marche dans l'eau comme ça, et on ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire, mais James Bond, lui, comprend qu'elle se suicide. Et donc Thésée laisse Ariane à son triste sort, parce qu'il, en fait, il est allé dans le labyrinthe, donc il a acquis un peu de cette monstruosité. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le labyrinthe, ça reste caché dans le mythe. Et du coup, voilà, Thésée a pris un peu de cette monstruosité, et donc il va abandonner Ariane à un très triste sort.
C'est convaincant, c'est ça qui est extraordinaire. C'est très, très, très convaincant. C'est dans le... J'aime beaucoup utiliser les métaphores génétiques, là, mais c'est dans le code génétique de l'histoire que de pouvoir voir certains petits chromosomes similaires entre, bon, c'est ça, Thésée et James Bond.
C'est dans la comparaison, et surtout l'idée de la contamination là, qui se fait au contact de la violence. Là, donc, c'est très,
au
très
contact
présent,
de ce qui est caché, ouais, ce qui est caché, ouais, en fait. Voilà.
C'est nécessairement de la violence, surtout avec le James Bond de Daniel Craig qui est de plus en plus violent.
Hyper viril,
ouais, c'est ça, qui essaye d'aller plus là-dedans. Donc le James Bond qui est supposé être un agent du bien, mais tombe dans la violence radicale, il peut tuer tout le monde, et il a tué beaucoup de gens. Là. Donc il y a ça aussi qui est très intéressant quand on compare le mythe justement avec les histoires de James Bond.
Oui, c'est vrai ça. Ben voilà pour James Bond, hein. Alors on pourrait parler de plein de choses, hein. Mais parce que bon, du coup, quand on a dégagé ce mythe, on se rend compte que ben, tout ce qui est dans l'histoire va plus ou moins tourner autour de ce mythe-là. Et les choses qui vont vraiment se rattacher au mythe vont être conservées, comme le personnage de Q dans les films, qui va prendre la place de Dédale qui n'existait pas dans les romans. Et du coup, cet élément-là va être conservé parce qu'il est très proche du mythe selon lequel ça a été écrit. Et au contraire, des éléments qui vont trop radicalement s'en éloigner vont être délaissés et voilà, ne vont pas survivre.
Et ça, est-ce que c'est un processus conscient ou inconscient, d'après toi?
Le fait de s'inspirer du mythe?
Ou de, comme tu dis, ce processus...
Est-ce que c'est réfléchi au moment de la production, par exemple, de James Bond ou de...
Alors, pour Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, qui étaient de confession judaïque, je pense que oui, il y avait tout ça. Puis on a repéré quand même des choses qui faisaient vraiment écho au Pentateuque. Pour Ian Fleming, oui, parce que non seulement il y a la mention du premier méchant de l'histoire comme un Minotaure, mais le film dont je parlais, Au service secret de sa majesté, le seul où James Bond se marie d'ailleurs, Tracy, qui va faire exactement la même chose qu'Ariane pour se suicider, ce qui est absolument invraisemblable, mais en plus, en tant que spectateur, on ne comprend pas. Et ben, ce film a été coécrit par Ian Fleming. C'est le seul qui a été coécrit par Ian Fleming. Donc ça fait quand même un sacré indice. Hein. Je ne peux pas mettre ça de côté. Hein.
Fait que c'est très intéressant parce que ces créatrices et créateurs-là, on a tendance à les admirer parce qu'ils ont été capables de créer des imaginaires qui ont persévéré et qui se sont enrichis et qui ont emballé tant de gens. Moi, de règle générale, je finis par... autant que j'ai un exemple comme ça, j'ai aucun respect pour Bob Kane en tant qu'humain.
Pareil.
C'est un déchet. Mais il a fait quoi, ou du moins, il a fait quoi avec l'aide de plusieurs personnes. Donc, il y a, pour moi, un espèce de sentiment de comme, okay, ben, c'est tout un accomplissement. Et j'ai souvent l'impression que c'est comme ça, la culture populaire. C'est qu'on se retrouve à dire, mais c'est incroyable d'avoir pris une germe de l'esprit, de l'avoir extrapolé et d'avoir réussi à plaire à tant de gens.
On fait souvent des idoles de ces figures-là, comme George Lucas. Comme,
ouais. Mais la façon que tu les présentes actuellement, c'était des grands artistes. C'est d'autant plus. C'est pas seulement qu'ils ont réussi à mettre le doigt, c'est pas une synchronicité, c'est pas un zeitgeist, c'est vraiment que Casino Royale est une œuvre littéraire extrêmement brillante.
Alors oui, en plus, bah, oui, ça ressemble quand même à de la littérature de gare, hein. Faut pas se leurrer. Non,
hein. pas en termes de qualité des histoires, mais en termes d'impressionner les imaginaires comme ça, mais en réécrivant des histoires qui existent depuis des siècles. Oui.
Eh bien, c'est là que je reviens sur la distinction de Bill ou de Claude Lévi-Strauss, hein, prenez celle que vous préférez, entre la poésie et le mouthos. Pour moi, un vrai artiste, quand même, c'est quelqu'un qui va maîtriser une certaine technique et qui, s'il doit s'emparer d'un mythe, vraiment, il va se l'approprier intégralement. Or, là, ces artistes-là, je les admire énormément parce que pour moi, c'est un peu des filtres à imaginaire.
C'est ça,
en fait.
C'est des gens qui ont saisi quelque chose.
Ils se posent au bon endroit dans l'imaginaire, ils arrivent à se mettre au bon endroit au bon moment. Et ça me fait penser à Dan O'Bannon, hein, le scénariste d'Alien, puisque j'ai aussi travaillé sur Alien. Mm-hmm. Et donc, pareil, Dan O'Bannon avait pris un scénario de type prométhéen, un scénario où la technologie et la science vont conduire l'humanité à son trépas, enfin, du moins au pire des maux, à la pire des afflictions, le xénomorphe. Et. Et en fait, ce qu'a écrit Dan O'Bannon, c'est médiocre. Quand on relit le script de Star Beast, premier scénario d'Alien, qui sera au final très proche du dernier, c'est médiocre.
Du dernier, tu veux dire de Covenant ?
Non, de Alien de Ridley Scott, le 8e passager, je veux dire. Mais la version finale est très proche de du script original, qui pourtant, quand on le lit, on dirait un scénario pulp comme il s'en écrivait 10 fois dans l'année.
Mais en même temps, Alien ne brille pas nécessairement par la qualité de ses dialogues ni de sa mise en scène, mais par la qualité que Ridley Scott a réussi à amener dans la production du film en général, qui a réussi à fédérer des artistes comme Giger, comme...
C'est ça. Alors là, je vais devoir intervenir par contre. Parce que, en fait, les artistes d'Alien travaillaient tous, Ron Cobb, Giger, Dan O'Bannon,
ils
travaillaient tous sur le Jodorowsky, sur le dune de Jodorowsky avant. Donc ils se connaissaient déjà, c'était des amis.
Mais il y avait aussi un œil particulier qui a amené quelque chose à l'imaginaire visuel de la science-fiction qu'il n'y avait pas vraiment eu avant.
Il y a Star Wars, il y avait 2 ans avant, ils ont un peu.
Oui, ils ont repris certaines.
Ils ont repris l'esthétique de Star Wars
mais
déjà.
Mais le rythme aussi, la qualité des images.
Oui, il y a énormément de talent dans le film. Moi, c'est un de mes films préférés, personnellement, c'est un de mes films préférés. Mais par contre, pour moi, le mythe, c'est ce qui va vraiment inspirer les gens. Je veux dire que s'il n'y avait pas cette inspiration au fondement, les films de James Bond n'auraient pas autant de qualité. Ils auraient fini par s'essouffler, comme tout produit qui est trop exploité sur le long terme. Or, le dernier avec Daniel Craig est peut-être mon James Bond préféré. Casino Royale est sûrement mon James Bond préféré.
Ah oui.
Oui,
ok. J'en ai pas vu.
Et en fait, je veux pas remettre en doute le talent de Ridley Scott, ça va de soi, même s'il nous a beaucoup déçus. Hein,
Mais c'est ça l'affaire avec lui. Je pense que Ridley Scott, faut pas lui donner trop l'argent parce que sinon, il perd de sa créativité.
Mais en même temps, c'est
il travaille bien dans la contrainte.
C'est ça, mais c'est cohérent avec ce que vous dites. Puis c'est là où je trouve que le cinéma devient un objet beaucoup plus complexe parce que c'est pas l'œuvre de une ou deux personnes.
Non, c'est ça, c'est une équipe.
C'est ça. Et Alien est un très bon exemple de tout le monde amène le meilleur de ce qu'ils ont à la table. Donc, les performances, c'est quelque chose d'autre. Le design, exactement. Les décors, tout était... en fait, je dirais peut-être que Blade Runner est plus fort dans cette logique-là, qu'on dirait que tout le monde était à 110% durant Blade Runner. Mais... c'est de ces films-là que tu peux pas vraiment, ou du moins, je trouve ça plus compliqué de dire que ça gravite autour du mythe. J'ai vraiment l'impression que, ça gravite autour du mythe.
L'histoire, c'est ça, c'est comme la graine qu'on a plantée, puis après, ça germe pour devenir une œuvre quand même assez complexe.
Si tu regardes dans Alien, toute l'esthétique, tout le scénario, toutes les inventions, même les idées de dernière minute, comme le fait que Ash soit un robot, que ouais. le seul scientifique de l'équipage soit un robot, c'était pas quelque chose qui était écrit dans le script original. C'est venu après. Et en fait, toutes ces idées qui vont se rajouter, et même les éléments de décor, les dernières idées esthétiques, etc., etc., même le logo de la Wayland Yutani qui apparaît dans le premier film sur les canettes de bière, hein, si vous le cherchez.
Ouais.
Donc, tous ces éléments vont être inspirés par le mythe qui est à la base de ça. Puisque tout ça va se raccrocher au mythe de Prométhée. En fait, la Wayland Yutani, ça va être le dieu qui va un peu organiser toute cette punition, puisque c'est lui qui a fabriqué Maman, c'est lui qui a fabriqué Ash, et pas Cain, encore une fois. donc, on va en faire un robot. On va mettre la Wayland Yutani en scène comme quelque chose qui flotte autour des membres de l'équipage, mais on ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, on ne les nomme pas.
Non. Voilà.
Une entité toute puissante qui gère un petit peu cette histoire. Le scientifique de l'équipage, on ne va pas en faire un humain, puisque si on est dans un mythe prométhéen, à savoir c'est l'homme a reçu la science de Dieu, donc le scientifique de l'équipage va aussi être créé par cette compagnie, et ça va devenir un robot, il ne sera plus du tout humain. Et alors tu disais les dialogues dans Alien, moi je les trouve assez pertinents quand même, parce que les acteurs vont vraiment jouer des dialogues assez terre-à-terre, avec des émotions proprement humaines. Et ce qui est génial, c'est que les émotions de Ash vont être exagérées pour nous dire, regardez les émotions, la morale, tout ça. Je trouve ça vraiment génial.
Ben, je pense que ce que Megan voulait dire, c'est qu'on n'a pas de speech comme celui de Bill dans Alien.
Il y a trois mots qui ont sorti du scénario, puis c'est pas mal ça. Là. C'est A Perfect Organism, puis c'est pas mal tout ce que les gens se souviennent des dialogues les plus importants d'Alien. Parce que sinon, on se crie un peu les uns sur les autres, puis on s'insulte, là, c'est comme...
Ouais. Ben, il y a quelques one-liners de Ripley, mais c'est dans le deuxième.
Ouais, c'est ça. Les one-liners ressortent plus dans Aliens.
Aliens.
Surtout à cause des Colonial Marines, qui sont reconnus pour leur sens de la répartie, là.
C'est ça, c'est plus épique aussi.
Ouais, c'est ça.
On retient pas trop les répliques de films d'horreur en général. C'est pas les films qui ont le plus de succès à ce niveau-là.
Alien 4 a quand même Earth, what a shithole.
Ah oui, Alien 4.
Ron Perlman. Merci beaucoup. Mais c'est ça devient très intéressant parce que la façon que tu abordes ces objets-là permet des questions sur, non seulement sur les objets, mais sur comment qu'on les aborde, les objets. C'est là-dessus que... moi, je suis fasciné jusqu'à présent. Là, je deviendrais comme OK. Mais là,
très plaisir.
Je vais retrouver mon train.
Mais il y a quelque chose, c'est ça, parce que avant de venir, j'avais fait quelques recherches, parce que quand on parle du mythe, souvent on pense à la mythocritie, qui est c'est une espèce de branche du structuraliste qui veut étudier en comparaison les mythes et justement les œuvres, surtout c'est très littéraire là, comme approche, mais c'est ça, la mythocritie prend les mythes et essaie de les retrouver dans les œuvres, alors que toi, ton approche, c'est vraiment l'inverse, c'est de prendre les œuvres et d'essayer d'extraire cette essence mythique et de comprendre pourquoi elles ont autant d'importance dans notre imaginaire aujourd'hui, surtout l'imaginaire populaire. Donc, c'est vraiment un renversement très intéressant de les étudier en comparaison, mais vraiment de partir de l'objet populaire, de partir de surtout, tu parlais aussi des fans au début, donc quand on commence à s'intéresser un peu plus à ce que les fans disent puis qu'est-ce qu'ils disent dans les fandoms sur Reddit et compagnie, on voit qu'ils ont déjà trouvé des trucs que nous, universitaires, on n'a même pas encore pensé. Là. Ça va très loin.
Du coup, je vais profiter de ton intervention pour citer ce livre, hein, Pop Culture, de Richard Memento. Donc, c'est un philosophe français qui se définit lui-même comme un geek attardé. Et donc très, très fan de ce genre de consommation du divertissement, a écrit un ouvrage. Et l'intérêt de cet ouvrage philosophique, qui va faire une grosse synthèse sur la culture pop en disant, qu'est-ce que la culture pop permet? Alors, selon lui, elle permet de réintégrer les minorités, etc. Mm-hmm. Mais je vous invite plutôt à lire si vraiment le sujet vous intéresse. Et je sais que le sujet vous intéresse, donc... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va défendre l'idée que pour parler de ces choses-là, il faut vraiment être fan. On n'imagine pas un spécialiste de Racine ne pas être fan de Racine. Hein, bon, à part Roland Barthes, peut-être, mais à part lui, personne ne s'est jamais permis. Et donc, Richard Memento, ce qui va vraiment être drôle, c'est qu'il va utiliser ce fanservice et surtout, il va avoir un langage de fan en faisant de la philosophie avec du langage de geek. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Je vous invite à lire sur ce sujet-là.
Oui, parce qu'en même temps, ce langage-là existe pour une bonne raison. Il y a des très bonnes raisons pourquoi cette nouvelle langue-là apparaît. C'est qu'il y a des trucs dans le langage commun qui ne réussissent pas correctement à cerner des manifestations, des phénomènes très, très, très précis. Ça fait que c'est extraordinaire que quelqu'un se dote de ce langage-là pour être capable de décrire les phénomènes. C'est, chose oui, que
c'est,
ça.
C'est ce qu'on essaie de faire aussi ici, Pop en Stock, à l'UQAM, là, dans notre programme, parce que on est tous et toutes pas mal des fans de nos objets, même si c'est pas nécessairement nos objets, mais on est tous des geeks, on est tous et toutes, justement, on s'intéresse à ça dans notre quotidien. Ouais. Chez nous, on écoute tout Netflix, puis on se dit tout, on va faire une émission Pop en Stock sur le dernier Netflix Original ou peu importe, là. Fait que c'est sûr que je pense que cette tendance-là d'être des fans et d'être des universitaires va prendre de plus en plus de place dans les cultural studies.
Oui, mais il faut se débarrasser d'abord et avant tout d'une stigmate qui est quand même assez tenace de d'être un fan ne nous permet pas la distanciation.
Oui, c'est ça, mais c'est un double stigmate parce qu'il y a celui-là, puis il y a aussi le fait d'être un universitaire ne nous permet pas d'apprécier dans leur entièreté premier degré, les œuvres de culture populaire, il y a vraiment un double stigmate. Mm-hmm. Ça, c'est toute la théorie de Matt Hills dans Fan Culture. C'est de sortir de cette double stigmatisation et d'essayer de dépasser ça pour utiliser les objets de la culture populaire. Là.
Ouais.
Donc, il faut essayer de faire plus ça. Puis je pense que d'un côté et de l'autre, il faut qu'on en laisse et qu'on en donne.
Oh, oui, absolument. Ou juste que ça nous indiffère totalement au final. Là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi de faire attention à nos préjugés autant en tant que fan et en tant qu'universitaire.
Oui, exactement. Ouais. C'est ça. C'est que les gens qui nous accuseront de ne pas être capables de prendre cette distance-là ou les gens qui nous accuseront de ne pas être capables d'apprécier correctement ou à sa juste valeur, ben, il sera de notre sort que de leur démontrer qu'ils ont tort ou de complètement... Ben, c'est ça, moi, ma vocation, c'est d'ignorer les reproches, mais bon, ça, c'est un truc. L'autre chose qui émerge, c'est ce sentiment-là d'être authentique au fond, dans la forme aussi. Si on est capable, si l'on veut, si notre vocation c'est d'en parler, il faut d'abord le connaître, il faut ne pas avoir de gêne d'être capable de démontrer cette connaissance-là. C'est un peu ce que tu fais, tu as l'air de démontrer une connaissance encyclopédique à la fois des mythes et des objets, c'est incroyable.
Après, moi, je suis beaucoup dans la démonstration. Hein. Vraiment, pour moi, j'ai fait des études. Alors, j'étais en mathématiques appliquées aux sciences sociales dans mes premières années d'études.
Oh, voilà.
Je suis dans la démonstration depuis tout petit. J'ai baigné dedans, je suis tombé dedans.
Fait que l'idée de faire le calcul et de dessiner le calcul au complet est très importante.
C'est ça. Et j'ai toujours, d'où mon attachement au structuralisme. Qui est encore pour moi le seul mouvement en sciences humaines qui ait vraiment eu cet attachement à une démonstration, même si certains pensent qu'elle est biaisée. Mais en tout cas...
Le structuralisme, c'est très mathématique aussi, comme approche du travail créateur.
Après, ça a joué du tort au structuralisme de trop s'attacher à cette démonstration. Louis Yamslev, par exemple, qui était un grand penseur, s'est un peu ridiculisé en essayant de trop mathématiser des choses qu'il trouvait et qui étaient justes en plus. Donc ça a eu cette paresse. Ce défaut-là.
Il y a des excès dans tout.
Oui, parce que ça devient imbuvable.
Après, sur le fan service, oui, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux être à mi-hauteur, comme disait Nietzsche. Hein. Trop haut, on ne voit rien. Trop près, encore plus de problèmes. Donc, peut-être se situer à mi-hauteur. Mais si on lit les travaux universitaires sur la culture pop, alors c'est en train de changer maintenant, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est vrai que moi, je lis les premiers articles d'Umberto Eco, par exemple, qui ont eu beaucoup de succès, mais il est clair que cet homme-là n'aimait pas Superman. Et lors de ma dernière conférence, il a été cité pendant les questions et on m'a parlé de fonction fatigue ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et moi, j'ai dit non, mais c'est juste du racisme de caste, en fait. Cette personne-là est en train de dire que les... C'est de l'élitisme. Cette personne-là est en train de vous convaincre en disant juste que les gens qui lisent Superman sont médiocres par nature. C'est assez culotté quand même à l'université.
Ça sent très peu à la radio, mais que le fait que le chercheur que tu nous cites,
Richard Mamoto,
se considère comme un fan attardé.
Oui.
Ça, déjà, ça vient.
C'est ça.
Beaucoup de difficultés avec la dépréciation quand vient le temps de parler de culture populaire et aussi de se mettre en scène comme étant un peu. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il devrait honorer, et c'est honorable.
Il devrait célébrer.
Exactement.
Le fait. Hein, nous, peut-être qu'en France, on arrive à avoir cette distance avec l'ironie, tout ça.
On
en fait beaucoup aussi, alors peut-être que ça nous dérange beaucoup moins et qu'on n'a pas ce sentiment de dépréciation en lisant ça. Si la personne parle d'elle-même, c'est qu'elle en tire une certaine fierté. C'est présupposé pour nous.
C'est bien dit, ça, c'est vrai. C'est très, très, très culturel. L'autre truc que je vois venir de la part du courrier du lecteur, qui n'existe pas du plutôt pour l'émission qu'on va inventer à ce point-ci, c'est cette idée-là de, suite à tout ce que tu dis, est-ce qu'on peut tirer la conclusion de, si on veut faire une œuvre pérenne ou d'importance, on doit la centrer autour d'un mythe?
Alors, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire volontairement.
C'est fascinant. Okay.
Et ça s'explique, en fait. C'est pas quelque chose qui... Ça s'explique par cette... encore une fois, je recite Claude Lévi-Strauss, dont je ne suis pas spécialement adepte, hein, mais pour le coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé juste. Le fait de se consacrer volontairement à un mythe, comme l'a fait, par exemple, Ridley Scott avec Prometheus, en se disant, tiens, Alien est un scénario prométhéen, si j'appelle le préquel Prometheus, tout va bien se passer.
Ok. Je pense qu'il faut qu'on y irait.
Alors, petite crise de fou rire obligatoire.
Il était supposé en avoir trois, hein, Prometheus. Ah. C'est pas pour rien qu'il a changé le nom pour Alien Covenant. Là.
Oui, c'est ça.
Oh,
il était censé, oui, voilà, vraiment. Bon, alors, le problème, on va le dire à Ridley Scott, au moins on sait qu'il ne refera plus la bêtise.
Ouais. Il faudrait vraiment qu'il nous écoute. Ça serait bon pour sa carrière.
Ben, je crois qu'il a pris la leçon quand même.
Il y a un vignoble, donc il est peut-être francophile. Donc...
Il boit du vin, il est francophile.
Je ne sais pas. Je pensais à Jean-Luc Picard dans la tête. C'est ça. Les rapprochements.
Et du coup, donc, si, donc, en faisant ça, le problème, c'est qu'on va se consacrer au mythe comme, en tant qu'auteur. Et du coup, on va non seulement s'approprier le mythe, puisque, alors Mégane, tu parlais de la signification du mythe tout à l'heure. Ouais, j'emploierais le même mot, mais la particularité du mythe, c'est vraiment que n'importe qui peut se l'approprier.
Ouais, c'est ça, c'est l'interprétation propre à chacun.
Voilà, propre à chacun, les nourrices en Grèce qui sortaient le mythe. À la moindre bêtise que tu faisais, on te citait un mythe qui pouvait dire, voilà pourquoi il ne faut pas le faire.
Mais c'est le propre du mythe, même dans la Grèce antique, il y avait des milliers de versions d'un mythe et chacun l'interprétait à sa manière. Et on pouvait, comme on cite hors contexte des phrases de la Bible, dire, ah mais... Telle personne a dit ça, fait que tu peux comme l'adapter à les nouvelles situations. Là.
Ben, c'est ça, en fait. Il faut que le mythe il reste dans son état. Il ne faut quasiment pas que l'auteur le touche ou essaye de l'interpréter volontairement à l'écran, parce que dans ce cas-là, il va faire un travail, ce qu'on disait tout à l'heure, de poésis.
Ouais.
S'il réfléchit à la représentation visuelle du mythe, ben, il se l'approprie lui-même. Il ne laisse pas au spectateur la liberté de le faire. Et donc, ça va tout de suite... faire du mal à cette popularité, puisque bon, pour moi, j'en suis quasiment aujourd'hui à pas une certitude, mais je vois bien ce que ça permet d'avoir ce mythe central dans l'œuvre, mais auquel on n'a pas touché, ce qui fait que n'importe quel spectateur peut se l'approprier pour lui-même
et
adhère à cette histoire consciemment, inconsciemment. Je n'ai pas envie d'employer ces termes-là, mais voilà, c'est ce qui fait emporter l'adhésion. C'est le fait que le mythe est là, dans son état de mythe, et du coup, n'importe quel spectateur peut se l'approprier.
J'aime que tu es quand même adepte du structuralisme, mais c'est très post-structuraliste, qu'est-ce que tu es en train de dire.
Non, mais on peut utiliser les termes, le mythe dans son état naturel et non domestiqué. Et domestiqué commence à devenir un peu ennuyant, comme, bon, OK, là, je sais, t'as faim, il est 6 heures maintenant. Mais dans son état naturel, il va aller dans quelle direction, qu'est-ce qui va se passer?
On ne sait pas quel aspect il va avoir. Voilà, le mythe de la chute illustré par un extraterrestre qui fait l'humain pour s'intégrer, tout ça, c'est parfait, ça garde la signification intacte, mais on ne voit plus le mythe. C'est le mythe qui s'est habillé comme ça pour aller avec son époque.
Ouais.
Et... l'alter ego du mythe.
Je vais y venir. Peut-être sur la fin, je conclurai. Et voilà, et si l'auteur fait ce travail à la place du spectateur, bah, tout de suite, il perd l'adhésion du spectateur.
Mm-hmm.
Voilà, pour être...
Ah, donc
oui,
c'est
aussi, on en parlait l'autre fois à propos de Alien, justement, dévoiler le mythe comme dans Prometheus, ça enlève toute la magie,
ça
enlève tout le mystère, puis c'est aussi pour ça qu'un prequel, ça marche pas.
Non, c'est ça. Ouais. Mais encore, ça fonctionne pas, on en est tous énormément convaincus, mais il y a quand même une pulsion du part des spectateurs et du lectorat, et ainsi de suite, de vouloir aller chercher cette origine-là.
C'est comme une curiosité malsaine. On aimerait ça savoir, mais on ne veut pas vraiment savoir. C'est comme un accident d'auto. On veut regarder, mais on ne veut pas regarder.
Ouais, mais je pense que ça prendrait une rigueur de la part des créateurs de ne pas...
Ouais.
Mais
aussi de ne pas céder à l'envie de faire de l'argent.
Ouais,
ça me fait penser à Kane devant un œuf alien. Pourquoi est-ce qu'il va mettre la tête dedans?
À vrai, tout le monde, dans toute la franchise au complet, va se mettre la tête devant.
Ça n'a pas de l'air doux. Non, ça a l'air chaud. Je ne sais pas trop. Non, effectivement, il n'y a pas vraiment de...
Ça pompe, là, ça respire.
Oui. Non, j'ai enlevé mon masque.
Ah, c'est une bonne idée.
Une excellente idée.
Dire comment ça fonctionne. On dit qu'il y avait le mythe à l'intérieur, mais du coup, on n'a pas décrit comment ça fonctionnait vis-à-vis du spectateur. Comment... Le rapport entre le mythe et le... Pourquoi on ne le voit pas déjà? Pourquoi on n'arrive pas à...
Oui, c'est simple.
Pourquoi le mythe est caché?
On va partir là-dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi Superman se déguise en Clark Kent, finalement? Pourquoi James Bond s'affirme toujours en tant que James Bond alors qu'il devrait travailler comme agent secret et il n'est pas plus payé quand il fait ça? Et ouais. Pourquoi l'alien vit à 40 années-lumière de la Terre alors qu'il a besoin de nous pour terminer son embryogenèse? Ça aussi, pareil, on ne l'a pas posé comme question. Il y a une réponse un peu dans Alien versus Predator, puisque c'était dans le script original de Dan O'Bannon.
Okay.
Mais finalement, à la fin, dans le film de Ridley Scott, ça a été complètement mis de côté et on a laissé la chose comme ça, à savoir une bestiole qui a besoin de nous pour terminer son...
En fait, elle n'a pas vraiment besoin de nous, parce qu'au fur et à mesure des autres productions, elle a besoin de tout ce qui est à peu près proche d'un mammifère. Ou qui a un estomac, ou qui a un... Il a juste besoin d'un autre. Pas vraiment besoin de l'humain en tant que tel. Donc, il y a ça aussi que...
Dans le premier film, ça se pose différemment. C'est que quand tu vois le facehugger qui sort de l'œuf, tu te dis qu'il est parfaitement adapté à un visage humain. Et, et il est petit en plus. Alors que le Space Jockey, l'espèce de Prométhée qui est allongé, fait trois fois la taille d'un homme. Alors quel genre de facehugger devait aller sur son visage?
Il y en a parce que c'est arrivé dans les comics. Il y en a un à un moment donné qui a fait un espèce de xénomorphe géant. C'est vraiment effrayant. Il y a aussi un T-Rex à un moment donné. Il y a vraiment de tout dans les comics.
Mais tout ça, c'est pour comme un simple intertexte avec un film de Bavan. Parce que le Space Jockey, c'est un clin d'œil à la planète des vampires de Mario Bavin. Ouais. Ça servait juste à ça. Mais tu vois, ça, c'est dans le genre de truc qui m'intéresse le plus. C'est qu'on doit faire tenir l'histoire au grand complet sur cet intertexte-là. Oh, ben, il ne peut pas avoir un filon qui est seulement un clin d'œil à un film de science-fiction exploitative des années 70.
Ouais.
Un film extraordinaire. Il faut quand même qu'on soit capable d'aller créer les explications qui vont rendre cet univers-là cohérent. Fait que dans ce pourquoi-là que tu poses comme question, ben c'est ça, c'est le jeu de l'esprit. Les gens qui doivent creuser et comprendre.
Mais il y a aussi, ça, vu que c'est ouvert à l'interprétation, ça a donné tout plein d'histoires comme que je viens de décrire dans les comics.
Oui,
puis
c'est ça
le truc, c'est qu'on veut juste partir l'étincelle qui va faire que les gens vont embarquer là-dessus et ils vont pouvoir créer leurs propres histoires.
C'est ce qu'on disait donc de la fonction du mythe, savoir de... Voilà, c'est toujours dans une œuvre, c'est toujours ce qui va rester ouvert comme ça, qui va signaler
aussi,
que
malgré toutes les tentatives de réponse, il n'y en a jamais une qui va être assez satisfaisante. Alors, on va toujours essayer de répondre encore et encore au mythe originel.
Ouais.
Mais encore, cette question-là, la question est encore, elle reste ouverte. Ces trucs-là que tu nous as décrits, maintenant qu'on les sait, sont très évidents. Comment ça se fait qu'ils sont si occultés initialement?
Je te remercie d'avoir posé la question si clairement. Alors, d'après moi et d'après, donc c'était la conférence que j'étais venu faire précisément ici.
Okay.
Il y a le mythe, et on ne sait pas trop l'utilité du mythe encore aujourd'hui. Et pour moi, le fait de l'étudier comme ça, à travers ces manifestations contemporaines, sachant qu'on parle de mythe quand même très ancien, ça permet de mettre en évidence, je dirais pas son rôle, mais de quoi il dépend. Et d'après moi, si on ne voit pas Superman, si on ne se pose pas la question de pourquoi Superman se déguise en Clark Kent alors qu'il pourrait très bien continuer à exister en tant que Superman, pourquoi il essaye de séduire Lois Lane, peut-être pour se faire passer pour un humain, mais une fois qu'il aura consommé avec Lois Lane, elle le verra bien qu'il n'est pas humain. Et
on espère.
Pourquoi 007 veut absolument s'affirmer en tant que James Bond, alors que rien ne l'y oblige, ni son métier, auquel il tient énormément, ni ses aïeux, puisqu'il n'a plus rien à faire de son passé. Donc c'est vraiment très très bizarre. Et pour moi, si on n'est pas étonné de ça, si on continue de suspendre notre incrédulité, alors que normalement ça devrait nous faire violence, eh bien, c'est parce que nous-mêmes, on fait ça tous les jours au quotidien. Et nous-mêmes, quand on s'intègre à une société d'individus, eh bien, on va se diminuer, hein, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Hein, on va éviter de dire « moi, je sais faire ceci, je sais faire cela, tu as besoin d'un coup de main ». On ne va pas faire ça, on va se diminuer pour s'intégrer aux humains.
Ouais.
Donc Superman le fait, nous aussi, donc ça ne nous dérange pas. Quand on le voit dans la fiction, c'est pas dérangeant, puisque nous, on le fait déjà, et ça fait depuis tout petit qu'on fait ça et qu'on nous l'enseigne. Ça fait même 2000 ans qu'on nous l'enseigne. James Bond, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est plus psychologique, mais en somme, dans James Bond, comme dans le mythe de Thésée, relu par Ian Fleming, tout ce qui va être caché va devenir monstrueux. L'adultère de Pasiphae va engendrer un enfant monstrueux qui va être caché dans le labyrinthe avec la femme adultère, et Minos va demander qu'on sacrifie tous les 9 ans 14, enfin 7 jeunes hommes, 7 jeunes femmes, une chose absolument monstrueuse, alors qu'on ne sait même pas si le Minotaure a besoin de se nourrir d'humains. Je veux dire, pareil, ce n'est pas expliqué dans le mythe, parce que l'idée globale, c'est que du moment qu'on cache quelque chose, eh bien, cette chose va devenir monstrueuse.
Ouais, ou va avoir besoin de sacrifices, ou il va avoir une dépense.
C'est ça, et on va être obligé de continuer à le cacher, et ça va devenir de plus en plus monstrueux. monstrueux. Bah ça, ça relève aussi bien du mythe que de quelque chose qu'on pratique tous les jours et auquel on croit, mm-hmm. en fait. Hein,
c'est le propre de la figure du monstre, d'être caché. Donc, un monstre qui est révélé, c'est là
c'est moi qui emploie le terme monstrueux. C'est Umberto Eco aussi qui emploie le terme monstrueux.
Mais en général, quand on étudie les monstres, parce que Noah Carroll l'utilise aussi, donc c'est vraiment le propre du monstre parce que ça vient de la même racine. Donc,
tiens, tu me fais penser
caché,
à un truc.
Le monstre.
Mais justement, le plus gros monstre de toute l'histoire de la mythologie, alors toute mythologie confondue cette fois, vous savez lequel c'est?
C'est le
Kraken qui fait 30 km de diamètre.
Ok, on parle de superficie. Ok, moi je parle de chercher l'importance.
Ah oh, non, c'est, je parlais de
superficie. Oui, le Kraken.
Physique, importance physique.
Là, on est sur. Donc le Kraken, c'est un monstre qui restera caché jusqu'au jour de l'Apocalypse. Donc ça, c'est une précision apocryphe par des gens chrétiens, je pense. Mais ce Kraken, il est intéressant parce que c'est le symbole du spectre dans James Bond.
Ouais.
Donc voilà, quand je parlais de la mythe, de ce qui allait rester dans
Et dans Hydra aussi.
Oui, c'est ça, j'allais dire aussi.
Ouais, c'est aussi la menace sous-jacente néo-nazie de l'univers de Marvel.
Et aussi Cthulhu, c'est une réitération du Kraken encore.
Exactement. Fois, donc on a une belle illustration de ça, encore une fois.
Ouais. C'est sous-marin. C'est la chose la plus cachée qu'on puisse imaginer. On connaît plus l'espace qu'on connaît les fonds marins en termes de recherche scientifique. Donc oui, c'est ça. Ça fonctionne totalement que la menace ultime provient du cachet ultime, comme que tu dis.
Ouais. D'où les théories du complot aujourd'hui, enfin tout ça. Bon,
on a une fascination pour ce mystère-là là, qui se cache. Là. Donc, c'est sûr que les histoires qui vont reproduire ce schéma-là vont nous fasciner éventuellement parce que c'est caché, on va savoir c'est quoi. Là. C'est sûr que notre curiosité va être piquée. Puis c'est aussi pour reciter Matt Hill, c'est la preuve des séries télé qui durent ad vitam aeternam. Là. Donc, il faut toujours avoir le mystère à résoudre. Qui a tué Laura Palmer? Ces trucs-là. Donc, aussitôt que le mystère est révélé, l'intérêt disparaît de la même façon avec Prometheus.
Oui, exactement. C'est un beau rappel. Hein. Le film de trop.
On a révélé le mythe et là, c'est foutu.
Et voilà.
Merci énormément.
Merci à vous, hein. c'était un plaisir.
T'en es à la... Christophe Bruno, allez suivre ses activités.
Oui, t'avais ta chaîne YouTube dont tu parlais.
Non, la chaîne s'est arrêtée, donc ça a été un projet que j'ai commencé. Oui. Donc j'ai commencé ces recherches en même temps qu'une chaîne YouTube.
OK.
Et j'ai pas eu les moyens de la faire survivre, cette chaîne. Parce que la conférence à l'université, même à l'université, hein, ça rapporte pas beaucoup. Donc, j'ai pas eu les moyens de continuer à faire vivre cette chaîne. C'est un projet que je compte récupérer un jour.
S'intitule
Meet Them All. Alors, je sais pas trop le prononcer, même si je l'ai écrit. Donc, c'est Meet comme mythologie. Mm-hmm. Meet Them All comme Catch Them All, comme Kill Them All. Donc, Meet Them All, contracté, hein, Meet apostrophe E-M-A-L-L. Sur YouTube. Donc, il n'y a qu'une vidéo. Il y a la vidéo sur Alien. Hein. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé. C'est parce que vous pourrez trouver tout ce que vous voulez d'analogie entre Alien et Prométhée sur cette vidéo YouTube. Pour l'instant, il n'y a que ça. Une vidéo, un teaser. Mais si je reprends le projet, je ne le reprendrai pas sous cette forme-là.
OK.
Je pense que je vais plus axer sur le côté conférence universitaire. Je vais peut-être plus axer sur l'intérêt pour la recherche en sciences humaines, puisque c'est quand même ce qui me passionne à la base.
Et si on veut suivre ces progrès-là, comment est-ce qu'on le fait?
Alors là, pour l'instant, à moins de venir en France et d'être abonné à la page Facebook pour voir où se déroulent les conférences, et encore, je ne les publie pas tout le temps sur ma page Facebook. Donc j'avais mis ça en stand-by, et je me suis, j'ai utilisé ce prétexte de revenir à l'UQAM pour représenter ses recherches et ses travaux. Et bon, ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer l'équipe de Pop en Stock, déjà, ça, je tiens à le dire.
Mais ta page Facebook, c'est à quel nom?
C'est Meet Them All, la page
Facebook, parfait, c'est, bon.
C'est Meet Them All, donc M-Y-T-H apostrophe E-M espace A-L-L, Meet Them All. N'hésitez pas, abonnez-vous.
Ah oui, c'est parfait, mais le plaisir était totalement partagé. Merci beaucoup.